Alors, nous entendrons d'abord un premier passage dans le livre d'Ésaïe, les versets 1 à 7, au chapitre 5. « Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, il ôta les pierres, il y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire de ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Et dans l'Évangile selon Luc, vous allez entendre cette parabole de Jésus. Dernière parabole dans l'Évangile de Luc, donc au chapitre 20, les versets 9 à 19. Jésus se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loi à des vignerons, et partit en voyage pour longtemps. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent et le déshonorèrent, puis ils le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux. C'est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Comment le maître de la vigne les traitera-t-il donc? Il viendra, il fera disparaître ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, les pharisiens s'exclamèrent, « Jamais de la vie !» Il les regarda et il dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » À ce moment même, les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur Jésus, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, la plupart d'entre vous le savent, la Bible est au cœur d'une de ces six affirmations au fondement du protestantisme, la grâce seule, la foi seule, la Bible seule, à Dieu seul la gloire, se réformer sans cesse et le sacerdoce universel. Mais, en fait, c'est une affirmation, mais ce n'est pas un dogme. Et il me semble toujours indispensable de revisiter sans cesse nos affirmations. Que signifie la Bible seule? Est-ce que la Bible est parole de Dieu, directement, comme ça, sans rien faire, comme certains le pensent? Est-ce que la parole de Dieu est confinée uniquement dans ce livre? Eh bien, je ne le crois pas du tout. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y en a certains qui sont choqués. Bon, pas trop ici, mais sur les ondes de radio, je peux vous dire que quand je dis ça, on reçoit des centaines de lettres. Non, ce gros livre-là, là, que vous voyez, qui est très joli, et qui a une certaine valeur d'ailleurs, mais en fait, c'est pas la parole de Dieu. C'est jamais qu'un beau livre ancien sur lequel la poussière se dépose, et la parole de Dieu, elle n'est pas cela. Elle n'est pas figée, immuable. Elle ne peut être enfermée, contenue, même dans la Bible. Tout au contraire, à mon avis, la parole de Dieu, c'est un événement dans nos vies. Certes, c'est à travers la lecture, la méditation de la Bible, de l'Écriture, que la parole de Dieu peut devenir que la Bible peut devenir petit à petit la parole de Dieu. Mais l'Écriture comme parole de Dieu, en fait, c'est une métaphore, une expression imagée, analogique, qui ne doit jamais être comprise comme immédiateté entre parole et écriture. Vous savez, vous avez peut-être des Bibles chez vous, je ne sais pas si vous la lisez. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut, vous le savez. Mais si votre Bible chez vous est pleine de poussière, eh bien dites-vous qu'elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Par contre, si les pages sont usées, tournées, si vous avez gribouillé dessus et qu'elle est tellement usée presque qu'il faudrait en gros l'acheter, eh bien peut-être que là, à un moment donné, à travers ces lectures, vous avez fait une rencontre avec Dieu. Et c'est à partir de là que la Bible devient parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée. Lorsque vous la méditez, lorsque vous la priez, peu importe la manière dont cela se passe dans votre vie, pour chacun c'est une histoire différente. Pour certains, il faut la lire en groupe pour comprendre mieux, parce que la lecture est difficile. Et je dirais même que la lecture peut être dangereuse. Vous avez entendu ces paraboles, les deux, la première dans Ésaïe. On nous donne quand même une image assez violente, une image d'un Dieu assez violent. Et je pense que Dieu n'est pas cela. Il faut pour cela justement approfondir, creuser. Alors oui, la lecture de la Bible elle-même, quand elle est lue de manière superficielle, peut même être dangereuse et être le contraire justement de la parole de Dieu. Ça, tout cela est un peu complexe, je vous l'accorde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là pour vous accueillir et essayer de lire la Bible en groupe avec vous. Mais vous pouvez aussi être empli à la lecture d'un psaume, eh bien, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui fait que votre vie va changer, que petit à petit, vous tournez vers autre chose, vers un tout autre qu'est Dieu. Et là aussi, eh bien, c'est dans le secret et puis dans le silence que la parole de Dieu agit. La parole de Dieu, en fait, elle fait ce qu'elle veut sur nous. Il faut quand même, vous l'avez bien compris, y mettre un peu du nôtre. Et alors là, je vous propose aujourd'hui, comme signe de ce qu'est la parole de Dieu, c'est un espace d'interprétation. La Bible, elle est là pour être interprétée. Elle n'est pas là pour être lue de manière tout à fait superficielle. Et d'ailleurs, au sein même de la Bible, l'interprétation existe. Vous l'avez entendu, une première parabole, ou une allégorie d'ailleurs plutôt, mais enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, dans le livre d'Ésaïe, c'est ce fameux chant d'amour de Dieu pour son peuple, le chant du vigneron. Et laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, nous dit le prophète Ésaïe. Et déjà, on entend dans ce poème, dans ce chant de la vigne, l'interprétation qui nous est déjà en quelque sorte proposée au sein même du texte, une sorte de clé nous est donnée. Dieu est celui qui plante, la vigne serait Israël. Et c'est un véritable chant d'amour de l'Éternel pour son peuple. Un chant où Dieu dit à son peuple qu'il l'aime, mais que lui ne l'a pas aimé en retour. Et on voit bien là que Dieu, lorsqu'il dit qu'il va tout éradiquer, il n'arrache pas la vigne d'ailleurs, il la laisse à sa propre mort. Et c'est ça d'ailleurs qui est très intéressant, c'est qu'il la laisse mourir d'elle-même, c'est-à-dire que si le vigneron ne fait rien, eh bien la vigne va mourir. Et en quelque sorte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que le peuple n'a pas fait deux choses, pratiquer le droit et pratiquer la justice. Ainsi, c'est très intéressant, le lien entre ce que Dieu veut, ce que Dieu aime son peuple, et ce peuple qui n'est même pas capable d'aimer son prochain, de s'aimer entre eux. Alors, on dit souvent que Dieu est violent, mais si vous lisez bien les textes, ce n'est pas Dieu qui est violent, c'est l'homme qui est violent. Et c'est à cause de la violence de l'homme que la destruction est annoncée. Et nous le savons bien, lorsque nous sommes violents entre nous, il n'y a pas besoin de Dieu pour nous autodétruire. Alors, évidemment, on aime toujours rejeter la faute sur les autres. Et évidemment, quand tout va mal, c'est forcément la faute, non pas de moi, mais d'un autre. Et on peut y lire la faute de Dieu. Mais je ne le pense pas. Et Jésus reprend, en quelque sorte, réinterprète. Il se sert d'images que les gens connaissent, mais en les décalant toujours un peu, et il réinterprète. Et on voit que la Bible n'a de cesse de réinterpréter, y compris d'ailleurs, là j'ai choisi un passage de l'Ancien Testament à un autre du Nouveau, mais y compris de l'Ancien Testament, y compris du Nouveau Testament au Nouveau Testament. Jésus réinterprète à travers cette parabole. Alors, il y a plusieurs interprétations de cette parabole des vignerons meurtriers. Là, on le voit bien, en fait, c'est bien la violence des hommes qui est pointée. On a interprété de manière classique, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, mais la manière la plus classique était que l'on voyait dans le propriétaire de la vigne, on y reconnaît Dieu. Bon, dans les vignerons, en fait, là, c'est Israël, symbolisé particulièrement par ses chefs qui sont là en train d'écouter Jésus et qui sont là en train de s'opposer à Jésus. Vous l'avez entendu à la fin. Ils n'ont de cesse, dans l'évangile de Luc d'ailleurs, dans les autres évangiles aussi, mais chez Luc, c'est dès le début. Ils n'ont de cesse de vouloir tuer Jésus. La première chose que fait Jésus, ils veulent tout de suite le tuer chez Luc. Dans les envoyés, vous savez, ces serviteurs ou esclaves, suivant les traductions, que le propriétaire envoie, on entend qu'il s'agirait des prophètes. Et puis en fait, dans le Fils assassiné, comment ne pas reconnaître le Christ qui va être crucifié? Et dans la punition, en fait, lorsque on entend la punition, que les vignerons vont être rejetés et vont être remplacés, ça serait le rejet d'Israël, culminant particulièrement dans cet écrit par la catastrophe de 70 où le temple a été détruit, le temple de Jérusalem, mais le rejet d'Israël et l'annonce des nouveaux vignerons, eh bien, c'est l'Église, c'est nous. Alors, c'est vrai que probablement, lorsque ça a été écrit, il y a de cela. Il y a de cela, mais finalement, si on s'arrête là, je trouve que c'est une interprétation qui n'a pas tant de sens pour nous aujourd'hui, parce que c'est bien ça, la parole de Dieu, c'est pour moi aujourd'hui. Elle a été écrite il y a 2000 ans, mais quel écho elle fait dans ma vie? Elle fait des échos au sein des textes lui-même, mais quel écho elle fait dans ma vie? Là, je suis un peu gênée, parce que si on tire encore un peu, eh bien, c'est encore les Juifs qui auraient crucifié Jésus. On voit que tout cela est compliqué et que, en quelque sorte, ça disqualifie particulièrement les pharisiens. Mais les pharisiens ont donné notre judaïsme que l'on connaît aujourd'hui. Et ce judaïsme, il est encore là et il est encore en train d'interpréter les textes. Et on ne peut l'ignorer. Et je dirais même qu'on a intérêt à s'y intéresser pour enrichir notre propre interprétation. Le judaïsme d'aujourd'hui est héritier d'une riche tradition qui nourrit également notre propre lecture par le dialogue et la rencontre. Une lecture qui ne serait pas attentive oublierait également qu'une multitude de Judéens, habitants de Jérusalem, étaient des partisans de Jésus. Et d'ailleurs, là, on l'entend bien, parce que les chefs religieux, ont peur d'attaquer Jésus directement. Ils ont peur parce qu'ils savent bien qu'une partie du peuple est aux côtés de Jésus. Alors, il y a aussi d'autres niveaux d'interprétation. Jésus s'adresse à la foule et il emprunte le langage donc de la parabole. Il existe d'autres niveaux d'interprétation, mais on reste toujours un peu dans les mêmes schémas où le propriétaire, c'est Dieu. Mais vous avez peut-être entendu la chute, d'ailleurs qui fait écho à un autre texte de l'Ancien Testament, un texte, le psaume 118, qui dit que la pierre angulaire, celle qu'on a rejetée, devient la pierre centrale. C'est-à-dire qu'on peut entendre à travers cette parabole qui précède juste le temps de la passion, en fait l'annonce de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ. Certes, il va être mis à mort, mais même mis à mort, il garde toute sa force. Lui, le plus faible, lui, le rejeté, eh bien c'est sur lui que Dieu va s'appuyer pour construire en quelque sorte à nouveau une nouvelle vigne et pour appeler des nouveaux vignerons. Alors là, on est déjà dans une autre interprétation qui, à mon avis, est tout à fait, que l'on peut entendre, et qui est tout à fait intéressante. Mais je ne suis pas tout à fait satisfaite. Parce que dans la première interprétation, comme dans la deuxième interprétation, on tape sur les pharisiens sans comprendre que ces pharisiens, eh bien, c'est peut-être nous aussi. On nous dit qu'ils sont en quelque sorte disqualifiés, mais même s'ils ne sont pas disqualifiés, on entend bien qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver et que tout le monde pense que ces nouveaux, c'est l'Église. Eh bien, si on regarde l'état de l'Église et surtout l'état du monde aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions et s'interroger, a-t-on vraiment bien cultivé ces vignes ? N'a-t-on pas, nous aussi, tué certains des envoyés que nous n'avons pas écoutés ou dont nous n'avons pas écouté la parole ? Ça, je pense qu'il faut aussi l'entendre. Pour nous, aujourd'hui, qu'avons-nous fait de la vigne ? Est-ce que la vigne donne des fruits ? Nous avons toujours le risque, quel que soit que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, de nous enfermer dans l'appartenance identitaire, que ce soit celle du peuple juif ou que ce soit celle de l'Église, de nous enfermer et du coup d'enfermer Dieu dans nos images et dans nos désirs. Et je pense que donc, j'aimerais risquer avec vous une autre interprétation. D'abord, parce que j'ai dit tout à l'heure un jeu d'intertextualité, mais l'intertextualité, les échos, ne sont pas la réplique. Dans le premier texte, Dieu ne parle que très peu des vignerons. En fait, il va laisser la vigne à elle-même, et donc on le sait bien, la nature reprend ses droits et la vigne va être étouffée. Dans le deuxième texte, il s'agit de disqualifier des vignerons. Et donc, de nous inviter, nous, à réfléchir, nous qui sommes les vignerons aujourd'hui, à ce que nous devons faire. Le premier texte nous donne en quelque sorte la réponse. Il s'agit d'amour. Dieu chante son amour et il nous invite, nous aussi, à aimer. Il chante son amour pour nous et nous demande donc d'aimer. De l'aimer, lui, certes, mais d'aimer aussi ceux qu'il aime, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire le monde. Je pense que Dieu nous invite à tourner vers les autres, à pratiquer le droit et la justice. Peu importe la manière dont nous faisons les cultes, peu importe que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes, de religion, chrétiens, orientaux, et peu importe la manière dont on le fait, le principal, c'est d'être capable de pratiquer le droit et la justice. C'est la seule manière de répondre aux attentes de Dieu. Nous pouvons prier, mais nous devons aussi agir. Et j'aimerais donc oser une autre interprétation. Parce que dans toutes les interprétations classiques, le propriétaire et l'image qu'on nous donne du propriétaire, le propriétaire, c'est Dieu. Eh bien moi, ce Dieu-là, il ne me plaît pas. Je suis tout à fait désolée, mais ce Dieu qui fait tout pour que tout aille bien, certes, alors il plante, il met une tour et tout, et puis il s'en va, il disparaît. Il laisse aux autres. Alors il y a peut-être de cela, certes, Dieu nous a donné une responsabilité, mais il ne nous a pas laissés sans aucune présence, sans sa propre présence même. Ce Dieu-là, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu d'amour qui est aussi là, présent, à mes côtés. Alors, je ne suis pas un bon vigneron, mais lui, il est un bon propriétaire. Il n'est pas cette image d'un propriétaire qui ne s'intéresse pas au beau moi. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'argent et tout, je vous donne tout et débrouillez-vous. Non, ce n'est pas du tout ça, l'image que j'ai de Dieu. Et à mon avis, si on pousse la parabole jusqu'au bout, une fois qu'ils ont tué le fils, l'héritier, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est tuer le père. Et peut-être que c'est cela qu'il faut que nous fassions. Tuer le père, non pas tuer Dieu, mais tuer les images de Dieu que nous avons. Ces images d'un Dieu violent, d'un Dieu qui nous abandonnerait. Au contraire, Jésus, celui qui parle, le Christ, est là, au contraire, pour nous dire tout à fait autre chose de Dieu. D'abord parce que lui, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas ça, comme je disais tout à l'heure. La parole de Dieu, c'est le Christ qui nous rappelle tout l'enseignement et tout l'amour de Dieu pour nous. Le Christ nous l'assure, Dieu donne, il ne reprend pas. Et c'est à ce don que nous devons répondre. Dieu donne, mais il nous faut en faire quelque chose. Mais évidemment, nous avons la responsabilité, comme les vignerons. Mais Dieu est encore là. Le propriétaire n'est pas au loin. Il est là, à nos côtés. Il se manifeste, présent, à nos côtés. C'est cela aussi, comprendre ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui fait événement dans nos vies, ce qui nous met debout et qui nous permet d'aller, eh bien, d'aller quelque part au combat. Un combat pour que l'humanité soit meilleure, pour que le monde soit meilleur. C'est ça qui est important dans nos vies. La parole de Dieu est un événement, mais un événement contemporain. Ce n'est pas la transmission d'un passé lointain qui nous serait étranger, d'un passé mort, mais c'est une parole vivante qui est interprétante pour les femmes et pour les hommes aujourd'hui. Nous sommes invités à nous mettre dans ce mouvement de l'interprétation, une première parabole réinterprétée et encore réinterprétée. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous devons dire ce qu'elle signifie pour nous. Ainsi, même notre interprétation ne sera pas définitive. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien. Et la reprise peut être incessante. C'est pour ça finalement que je me risque souvent à des interprétations qui ne sont pas très orthodoxes, qui ne sont pas très catholiques et parfois pas du tout protestantes. Mais ce n'est pas grave parce que c'est dans le mouvement. Je peux me tromper aussi, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'essayer pour moi, pour vous, ce qui fait parole dans nos vies, ce qui nous met en mouvement. Ainsi, la parole n'est jamais une interprétation définitive, mais une reprise incessante du texte. Cela ne signifie pas justement que l'on renonce à toute vérité. Mais en réalité, cela nous invite à comprendre que nous ne pouvons posséder la vérité. La vérité n'est pas en termes de possession, elle est en termes d'être. D'ailleurs, Jésus dit « je suis la vérité », il ne dit jamais « j'ai la vérité ». Être en vérité, c'est-à-dire se comporter en vérité. Ce n'est pas facile, mais pour ça, j'en suis persuadée. Dieu n'est pas parti là-bas, loin. Il est là, à nos côtés. Nous sommes des cherchants, des mendiants, en quête de vérité. Une vérité, certes relative, mais qui pointe vers une autre vérité, qui nous est inaccessible, mais qui coïncide avec la vérité même de Dieu. La compréhension, donc, se fait dans la rencontre. La rencontre avec à la fois une parole divine et une parole humaine. Elle se manifeste pleinement dans l'abaissement de Dieu, c'est-à-dire dans son Fils, Jésus-Christ, Dieu qui accepte de se laisser entrevoir dans les paroles humaines. C'est ce que nous dit l'incarnation, la plénitude de Dieu, dans l'homme Jésus-Christ, qui, comme il nous l'est dit dans l'Évangile selon Luc, est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Amen.